C'est parti. Alors, je vais commencer cette émission en vous racontant un peu ma vie, comme ça arrive assez souvent pour ceux qui écoutent régulièrement. Je sais pas vous, mais je me souviens très bien de la première conversation que j'ai eue en lien avec le MP3. C'était en 2000 à peu près, à la terrasse d'un bar. Moi, c'était une proto-gothique qui m'expliquait, enfin qui nous expliquait à un pote et à moi, la puissance de Napster. Napster, ce fameux logiciel de peer-to-peer, grâce auquel en fait on avait le fichier sur notre ordi et tout le monde pouvait venir le télécharger sur notre ordi. Et on avait aussi accès aux fichiers de tous les ordis allumés qui avaient Napster. Bon, je n'ai pas été très clair dans mon explication, mais c'était pour ceux qui n'ont pas connu Napster. Au pire, ceux qui ne savent pas m'appelleront. À l'époque, moi, j'achetais encore des cassettes pour copier des CD que j'empruntais à la bibliothèque. J'écumais les brocantes pour acheter des vinyles parce que ça coûtait vraiment moins cher que les CD, vu que plus personne en voulait. Et une connaissance à moi avait investi dans un graveur CD et proposait, moyennant environ 30 francs, c'est-à-dire 4,50€, de copier un CD de son choix dans sa CD Tech de 600 CD. Autre temps, autre mœurs, mais aujourd'hui ça semble vraiment n'importe quoi. Bref, je me souviens très bien de cette fille qui nous disait qu'il y avait tout sur Napster, qu'on pouvait lui demander n'importe quel disque, qu'elle irait le chercher sur internet et qu'elle reviendrait dans une heure avec le disque. Un truc de fou. Je ne sais pas si je lui ai demandé d'ailleurs à l'époque la fameuse version du premier album de Pete Gervais qui contient les démos et le premier disque, mais en tout cas je me souviens qu'elle avait mentionné Metallica. Perso, à l'époque j'avais pas les sous pour m'acheter un ordi, donc tout ça restait extrêmement théorique. Et comme je l'ai dit, j'avais mes habitudes d'écoute et ça allait pas changer tout de suite. Il m'a fallu 5 ans et mon premier ordinateur pour que ça change. 5 années pendant lesquelles Napster a disparu, remplacé par Kazaa ou Emule. 5 années qui ont aussi vu l'apparition du direct download avec des sites comme RapidShare. Et bref, quand j'ai eu mon premier ordi, j'ai commencé à encoder mes premiers disques, toujours empruntés à la bibliothèque. Et est arrivée la vague des blogs musicaux. Donc, contrairement à l'immensité de Napster, des passionnés qui sélectionnaient et qui mettaient à disposition via leur blog, et RapidShare à l'époque, leur sélection de disques. J'en profite pour placer une spéciale dédicace à Les Labels et Twilight Zone, deux blogs qui m'ont fait découvrir en 2 ans plus de choses que 10 ans d'abonnement aux Inrock. Là, on est en 2005 et je me gaffe de découverte au format MP3. Je ne fais pas de peer-to-peer parce que j'ai peur de choper des virus, mais je fais du direct download. Le direct download, c'est un peu comme WeTransfer ou un fichier.com aujourd'hui, en plus lent mais avec le même modèle économique. Tu peux télécharger un truc gratuitement toutes les 4 heures et si tu veux en télécharger plus et plus rapidement, eh ben tu payes. Je me souviens même avoir donné de l'argent à ces services plutôt que de m'acheter des disques d'ailleurs. Et puis les blogs musicaux ont périclité, les services de direct download ont fermé les uns après les autres, souvenez-vous de Mega Upload, et puis le streaming a petit à petit pris la place de tout ça. Il y a 4 ans, j'ai pris un abonnement à Spotify, j'achète plus de CD, j'écoute des podcasts en 3G sur l'autoradio de la voiture, j'ai donc même plus besoin de tuner, voire même plus de radio. Un comble pour quelqu'un qui fait une émission sur Radio Audio. J'achète uniquement des vinyles, sauf que maintenant, bah, ça me coûte la peau du cul, et au final... Malgré tout ça, j'ai jamais écouté autant de musique différente. Maintenant que je vous ai raconté tout ça, vous devez vous demander quel rapport avec l'émission qui est quand même censée parler de livres. Eh bien, un tout. Parce que donc le premier livre dont je vais vous parler, c'est Boulevard du Stream de Sofiane Fanem, sorti au Castor Astral. Boulevard du Stream, sous-titré du MP3 à la musique libérée, c'est l'histoire qui sous-tend tout ce que je viens de vous raconter. Sofiane Fanem, il est journaliste musical, mais pas que. À Libé, entre autres, parce que je l'ai aussi vu dans Magic. Mais surtout, il écrit pour Les Jours, un journal en ligne pour lequel il suit toutes les histoires de musique en ligne, justement. Les Jours, pour que ceux qui ne savent pas, et j'en faisais partie avant de lire ce livre, c'est un magazine en ligne créé par d'anciens de Libération, et dont le concept c'est de suivre un sujet sur la longueur et dans le temps. un peu comme une série. Ils prennent un sujet genre à la poursuite de l'argent sale, et ensuite chaque article qu'ils vont faire va se rapporter à ce sujet sera un épisode. Comme souvent, il y a des personnages récurrents dans ces histoires, ils mettent ça en avant, etc. Bon, fin de la parenthèse sur les joueurs. Sofiane Fanen, lui, est donc l'auteur de la série La fête du stream dans les jours, et il en a tiré la substantifique moelle pour écrire ce livre. Fin novembre, début décembre, quand le livre est sorti, Sofiane Fanen a été de partout, les Inrock, Libération, Noiset, Au Calme, et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler du livre, et ma première réaction a été plus que mitigée. Un livre qui me raconte le streaming m'excite à peu près autant qu'un livre sur Marcel de Sailly. Mais c'est suite à une interview par Mehdi Maizi sur OKLM, la radio de Booba donc, que j'ai eu envie de le lire. D'ailleurs, je vous encourage vivement à aller voir cette interview qui est super intéressante et un très bon préambule au livre. Le livre nous raconte donc l'histoire de la musique dématérialisée, de la création du MP3 jusqu'au streaming aujourd'hui. Il est découpé en trois parties. La première nous raconte la création du MP3, les premiers échanges de musique via Internet et les conséquences que ça a pu avoir sur le marché de la musique. La seconde aborde les premières tentatives de cadrage du piratage par les autorités et les maisons de disques, qui ont mené à la création d'Adopi. Et la troisième nous parle de la naissance du streaming, de Deezer, de Spotify et jusqu'à aujourd'hui. Ces trois gros morceaux de l'histoire sont entrecoupés de courts portraits de pirates qui rythment cette enquête, un peu comme ce que je vous ai raconté au début de l'émission. Très agréable à lire, le livre ne tombe jamais dans des explications techniques imbitables ou d'autres écueils qu'on aurait pu redouter. Il est vraiment abordable par tout le monde. Toutefois, et là ça n'engage que moi, les deux premières parties m'ont moins plu, parce qu'il s'applique à décortiquer en fait les réactions des maisons de disques face à une révolution qu'elles ne comprennent absolument pas. Et même s'il y a un côté revanche, parce que franchement, à part s'en mettre plein les poches en tirant la créativité vers le bas en proposant des compiles de merde, les maisons de disques juste avant l'apparition du MP3, c'était un peu l'enfer sur Terre. Et ben bon, malgré donc ce côté revanche, j'ai eu un peu de mal à m'intéresser à leurs péripéties. Je voudrais juste quand même revenir sur une petite anecdote. Pascal Nègre, donc le PDG d'Universal, qui est un petit peu connu, qui organise une grande réunion avec tous ses commerciaux au début des années 2000. Et quand un des employés lui demande « Et pour Internet, qu'est-ce qu'on fait ?», Pascal Nègre lui a répondu « Internet, mais ça marchera jamais ». Ça en dit long sur le côté visionnaire et cynique de cette industrie qui a pensé à tout, sauf aux utilisateurs et à ceux qui écoutaient la musique. Donc franchement, qu'ils prennent le MP3 en pleine tronche et qu'ils perdent tous de l'argent, ça émeut très très peu. Et je vous parle pas des Adopi et des enjeux politiques autour qui sont dans la deuxième partie. En revanche, la troisième et dernière partie, elle m'a marqué au fer blanc et j'arrête pas d'y penser depuis que je l'ai lu. L'avènement du streaming s'accompagne de l'avènement du single et de la playlist. Et ça m'a plus que déprimé. Je vais essayer de développer. C'est pas parce que les maisons de disques reprennent du pouvoir ou que les artistes sont moins payés qu'avant. Et qu'il y a de nombreux avantages en fait au streaming et à Internet. Et par exemple, le fait que PNL existe et qu'ils gagnent de l'argent en est un bon exemple, je trouve. C'est un bon exemple d'indépendance. C'est juste que, dès qu'il s'agit de culture, je suis un peu un indécrottable romantique. Et je ne vis personnellement quasiment que pour découvrir de nouvelles choses, en musique, en livre, en film, un peu tout. Et je me dis que même si chez moi c'est un peu exacerbé, il y a toujours de la place pour cette découverte chez tout le monde. Et en fait, ce qu'il ressort de ce streaming, c'est qu'aujourd'hui il propose des millions de titres, et qu'il n'y en a en fait qu'une part infime qui est responsable de 80% des écoutes. J'ai plus les proportions en tête, mais c'est un truc très impressionnant. Donc en fait, les gens écoutent toujours, toujours les mêmes choses. Il y a très peu de découvertes. Autre élément, les gens n'écoutent plus d'albums. Ils écoutent des playlists, et pas des playlists qui se font eux-mêmes, des playlists générées automatiquement via des algorithmes sur Spotify, Deezer ou YouTube. On lance un morceau, et ça tourne. Une playlist pour la douche, une playlist de j'arrive au boulot, une playlist pour faire des câlins, etc., etc. Or, ces algorithmes, ils ont pour mission de faire en sorte que l'auditeur écoute le plus longtemps possible la musique pour permettre au site de placer de la pub ou en tirer des informations quant aux habitudes d'écoute. Et un des ingénieurs de Spotify témoigne dans le livre que quand il règle le curseur sur 1, tous les morceaux se ressemblent et les gens écoutent pendant des heures, quoi. Quand ils introduisent un tout petit peu de nouveauté et qu'ils augmentent un peu ce curseur, les gens éteignent tout de suite la playlist. On m'a expliqué il n'y a pas longtemps que le cerveau procure du plaisir à l'auditeur. Et qu'en fait, quand il écoute un morceau connu, comme il n'a pas d'effort à faire vu qu'il connaît déjà le morceau, il sait ce qui va arriver et en gros, le cerveau, en gros paresseux qu'il est, il se complaît dans le connu. Il redoute la découverte. Et en fait, toutes ces playlists avec ces algorithmes poussent le cerveau à ne pas faire d'effort. Et j'avoue que moi, ça me fait un peu peur. Un peu comme un nivellement par le bas, super insidieux, et à mon insu, en utilisant un des trucs que je préfère et que je trouve le plus beau, quoi. Ça me fait l'impression de ces émissions de télé super crétines qui peuvent être hypnotisantes et qui nous rendent bêtes. Autre élément qui n'a pas vraiment de rapport, mais qui, en lisant le livre, m'est apparu évident, c'est que le commerce de détail, d'une manière générale, allait disparaître à plus ou moins long terme. Vous me direz quel rapport entre le MP3 et le fait qu'il n'y ait plus de magasins de chaussures au centre-ville de Saint-Étienne dans le futur, comme si l'histoire de la musique dématérialisée faisait office d'exemple pour tout. C'est juste qu'en fait, cette histoire de dématérialisation de la musique, elle ne repose pas que sur l'invention du MP3, et pas que sur la musique, mais aussi sur l'avènement des ordinateurs, sur la création des smartphones, sur le fait que le budget alloué à la culture est maintenant dédié à l'achat d'un smartphone. Smartphone qui a pour vocation d'être votre carte bleue, votre billet de train, votre télé, votre chaîne, votre mémoire, etc. Bref, un truc un peu flippant là aussi. Mais sauf que, en fait, une fois que le cas de la musique sera plié, dans pas longtemps, eh ben, ça va être les autres qui y viendront. Alors voilà, je vais un peu faire mon vieux, mais comme le dit mon père, en fait, de la science-fiction, les seuls trucs qui se réalisent, ce sont les pires. En attendant, donc Boulevard du Stream revient donc sur toute cette histoire, nous fait vraiment réfléchir et est vraiment intéressant. Facile à lire, et puis en plus, ouais, voilà, comme j'ai dit, il ouvre vers d'autres pistes de réflexion. Et là, vraiment, pour l'émission, je me suis vraiment retenu, parce que j'aurais pu en parler pendant encore longtemps, tellement j'y ai vu des analogies à mettre de partout. Donc je vous encourage vraiment à le lire, même si le début est un petit peu long. On va marquer une petite pause, après cette longue présentation, avec un disque qui n'est pas sur Deezer d'ailleurs, et qui n'est pas sur Spotify, mais qui est sur YouTube, qui est aujourd'hui la plateforme de streaming qui propose le plus de disques rares. Et là, on va pas l'écouter en streaming, on va écouter mon disque à moi. Et donc, c'est parti, c'est Pouka avec Graham Robert Wood.
Graham Robert Wood is flying in the sky. You'd think that he'd need wings, but it's incredible. I have seen it with my own eyes. Graham Robert Wood is flying in the sky. You want to feel the sunshine, moves the clouds to the perimeter, makes me feel who I really am. So I've opened my eyes, I see the world, it doesn't compromise to everything people need, but I've given my money. money to the children, but what more can I do about it? When Graham Rabbit Wood is flying in the sky, I too get the feeling I am high. And if anybody says, when you gonna come down, I'm gonna spit on them. And I won't talk to them, 'cause self-indulgence did no one harm, so take me, I'm yours, here for your taking.
C'était Pouka avec Graham Robert Wood. Le deuxième livre dont je vais vous parler ce soir, c'est une BD qui est sortie au tout début de l'année et qui s'appelle L'homme gribouillé par Frédéric Peters et Serge Lemann, et c'est sorti chez Delcourt. D'ores et déjà, Gérard de l'Étrange Rendez-vous, la meilleure librairie BD de Saint-Étienne, à mon sens, j'en place une au passage, l'a proclamée comme une des BD de l'année. Le hasard fait bien les choses, c'est là où je l'ai achetée, et quand je l'ai achetée, elle n'avait pas encore ce statut, toujours est-il que je l'ai lue, et je ne suis pas loin de partager son avis, des BD comme ça, il n'en sort pas tous les 4 matins. Résumer L'homme gribouillé, c'est un peu compliqué. L'héroïne est une femme du nom de Betty qui est atteinte d'aphasie. C'est-à-dire qu'elle a des périodes où elle perd complètement sa voix. Sa mère, à cette dame, à Betty, est une fameuse auteure de livres pour enfants. Betty vit séparée et a une fille qui vit donc chez sa grand-mère suite à un gros dégât des eaux. Bon, déjà là, j'ai l'impression de m'être embrouillé. Donc pas d'homme de la famille, et suite à un malaise, la grand-mère part à l'hôpital, et pendant le séjour à l'hôpital, un homme se présente à l'appartement auprès de la petite fille et réclame de l'argent. Je n'irai pas plus loin pour ne pas déflorer l'histoire. Frédéric Peters, donc, c'est le dessinateur, il est suisse, il est déjà venu plusieurs fois à Saint-Étienne pour la fête du livre. Et il a écrit entre autres chefs-d'œuvre, à mon sens, Pilule Bleue, une BD autobiographique qu'il a fait connaître et qui raconte son histoire d'amour avec sa femme aujourd'hui, qui a le sida. Il est aussi l'auteur de Lupus, une BD de SF contemplative et hallucinante, une espèce de Solaris d'Andrei Tarkovsky en BD. Et surtout, Ama, une autre BD de SF, qui est cette fois une espèce de 2001, croisée avec Akira. Pour qui ne connaît pas ces points de comparaison, ça risque d'être un peu obscur ce que je dis. Disons pour faire simple que Peters s'est illustré aussi bien dans la BD autobiographique que de la science-fiction avec des récits contemplatifs, personnels et particulièrement forts quant aux thèmes abordés et à la façon de les traiter. Je ne vais pas toutes les citer, mais vraiment, vraiment, l'essentiel de ces BD sont bonnes à lire. Serge Lemann, donc, le scénariste, lui je connais beaucoup moins, il est scénariste de BD, il est auteur de science-fiction, apparemment un fameux auteur de science-fiction française, vu qu'il a eu plein de prix. Je n'ai lu aucun de ses romans, et je n'ai jamais été particulièrement séduit par ses BD, même si je les ai toujours trouvées très divertissantes. Toujours est-il que l'association des deux fait des étincelles. En fait, le récit commence comme un roman noir et l'ambiance bascule peu à peu dans le fantastique pour finir par se transformer en une espèce de conte pour adultes particulièrement prenant. L'histoire est riche, plusieurs thèmes sont abordés, la filiation, l'héritage, la maladie, la transmission filiale justement, le monde moderne, etc. J'ai dit conte parce que c'est ce qui vient tout de suite à l'esprit, vu que la grand-mère est auteur de livres pour enfants. Et il plane toujours dans le livre le fait de raconter des histoires. Mais comme je ne suis pas un spécialiste du conte, j'ai dû aller voir la définition dans le dico. Et donc, un conte, c'est juste un, et là je cite, « récit d'aventure imaginaire qui se distingue du roman par sa brièveté et qui est souvent féerique ou fantastique, voire symbolique ou satirique. » Pour finir, il est le domaine de prédilection de la littérature enfantine. Donc, mon histoire de conte pour adultes ne tient pas vraiment par rapport à la définition du dico. Vu que d'une, la BD est un pavé de plus de 300 pages, que conte pour adultes, au final, c'est un peu une oxymore, j'aime utiliser des mots compliqués après 9h du soir, mais sinon, pour le reste, on est bien dedans. Féerique, fantastique, symbolique, et il y a peut-être juste le satirique qui n'est pas présent, mais je suis sûr qu'en cherchant bien, on doit pouvoir le trouver. De plus en plus, la BD se rapproche du cinéma. Le vocabulaire pour décrire une case est d'ailleurs identique. En BD, on parle de plan large, de zoom, de storyboard, etc. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé des premières BD de Peters, je les ai d'ailleurs comparées à des films. Au final, on se demande, petit aparté, si les dessinateurs de BD ne sont pas juste des frustrés qui veulent faire du cinéma. Résultat, le dessin est souvent impersonnel et il n'y a que l'histoire qui prime. Sauf que la BD a son propre vocabulaire, et surtout ses propres possibilités. Et si je vous parle de ça, c'est que justement pour moi, l'homme gribouillé a les deux. L'histoire parfaite de bout en bout, et la maîtrise du médium BD. Donc le tout sur un dessin personnel, reconnaissable, qui peut partir à tout moment dans n'importe quelle direction. En résumé, L'homme gribouillé, c'est une BD dont le dessin est parfait, donc. L'histoire et l'ambiance sont parfaites aussi. Et même ma mère, qui ne lit pas de BD, l'a lu et a trouvé ça bien. Donc si avec ça, vous n'avez pas envie de le lire, je trouverai une autre BD à parler la prochaine fois. En attendant, donc j'ai placé mon père, ma mère, il ne me restera plus qu'à placer ma sœur, mais je crois que je ne vais pas réussir à la placer aujourd'hui, ce sera pour une autre émission. On va marquer une autre pause avec justement le roi de la comptine cette fois, conte comptine, chanter la comptine chantée pour adultes, c'est-à-dire Syd Barrett.
Please,
C'était donc Syd Barrett avec Baby Lemonade. En fait, comme j'ai beaucoup parlé du streaming, eh ben, il ne me reste plus beaucoup de temps pour parler d'autre chose, parce que l'émission va toucher à sa fin. Donc je vais faire une rapide revue. Une rapide revue de presse, on va dire bimestrielle. Donc comme ça, ça fera pour les prochaines fois. Donc je vous en reparlerai dans 2 mois, un truc comme ça. Et d'ailleurs, c'est toujours les mêmes revues dont je vais parler avec une petite nouvelle. Donc si vous vous en souvenez, il y a 3-4 émissions, je vous ai parlé de Gonzaï. Et ben le nouveau numéro de Gonzaï, il va sortir là bientôt. Il parle de synthétiseur avec un super jeu de mots. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'interviews de musiciens marqués à vie par l'instrument, dont Étienne Jomet qui joue dans Zombie Zombie, qui n'est d'ailleurs jamais loin quand on parle de synthétiseur analogique. Il y a un gros papier sur les 20 ans du premier album de R, qui est à mon sens un très bon disque. Et surtout, un gros papier qui fait un peu écho à Boulevard du Stream, ça c'est les coïncidences, sur les derniers vidéoclubs parisiens qui proposent encore des VHS. Apparemment, il doit en rester 3, et d'après eux, leur fond n'est pas disponible sur Internet, et ça laisse un petit peu rêveur, vu ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est vachement intéressant, même si il y a 2 mois, je crois, Arte avait diffusé un documentaire sur les VHS en disant justement que les VHS, c'était assez fou, la conclusion reliait la VHS et l'avènement du capitalisme triomphant. Bref, après les VHS, le MP3, on n'en sort pas. Après le dernier Gonzaï qui est sorti là vraiment ces jours-ci et qui est disponible en kiosque, vous avez le dernier numéro de la revue Atome, dont j'avais aussi parlé, qui parle de manga. Lui qui est sorti en tout début d'année à l'occasion d'Angoulême. Dedans, il y a une grosse interview de Naoki Urasawa, le créateur de 20th Century Boy et de Monster, qui sont ses 2 mangas les plus connus. Une autre de Kyu Hayashida, la dessinatrice de Doro et Doro, un manga steampunk hallucinant que je vous conseille vivement. Un truc complètement barré, quasiment irracontable, comme ça. En gros, le personnage principal a une tête de crocodile et recherche le magicien qui l'a transformé en tête de croco. Et après, impossible d'en raconter plus, mais dans un univers steampunk hallucinant, violent et en même temps magique, noir, drôle, enfin voilà, l'interview est vraiment très intéressante et en plus ça permet d'ouvrir la porte à ce manga hallucinant qui est Doro et Doro. Donc il y a aussi Kazuhiro Fujita, que je ne sais pas qui c'est, j'ai pas encore lu l'interview. Un gros article sur le manga et la traduction. Bref, Atome, la culture manga, le numéro 5 qui est sorti en janvier, qui est vraiment toujours aussi bien. Et donc je vais finir cette petite revue de presse avec le premier numéro des Arts Dessinés, qui est une revue bimestrielle que j'ai trouvée à l'une et l'autre, que je ne connaissais pas avant l'une et l'autre. Enfin, je connaissais pas la revue, hein, l'une et l'autre, je connaissais. C'est une autre fameuse librairie stéphanoise avec l'étrange rendez-vous. La revue aborde l'illustration au sens large du terme. Dans ce numéro, il nous parle de Jamie Hewlett, le dessinateur des Gorillaz et de Tangirl, de Lorenzo Mattotti, un dessinateur de BD italien, de Anton Krings, un dessinateur jeunesse qui a fait des livres sur un animal, enfin un gros, qui a eu un gros succès. Et il parle même de Romain Duris, qui est apparemment dessinateur à ses heures perdues, et pas mauvais de ce qu'on en voit dans la revue, contrairement à Mathias Malzieux, mais bon, ça n'engage que moi. Tout ce beau monde est interviewé en bonne et due forme, et la revue prend un peu la place de Kaboom, une fameuse revue BD dont je vous avais parlé, qui a aujourd'hui disparu. Donc c'est un peu comme Kaboom, sans les articles de fond, mais bon, il y avait une place à prendre, et la revue s'en tire plutôt bien. Donc voilà, qui ou quoi c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle les livres dont on a parlé aujourd'hui, Boulevard du Stream de Sofiane Fanem au Castor Astral, la BD L'Homme Gribouillé de Frédéric Peters et Serge Lehmann chez Delcourt, et les revues Gonzaï, Atome et Les Arts Dessinés. On se retrouve dans 2 semaines, on parlera surtout de BD. Normalement je reçois Jonathan de la Bédothèque et je vous parlerai des BD que j'ai empruntés là-bas. Voilà, en attendant, bonne soirée. C'était Qui ou Quoi sur Radio Dio. Dans une demi-heure, retrouvez comme à la Radio Dio pour son émission hebdomadaire. À bientôt.